Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour notre exploration.
Bonjour, je suis ravi aussi, surtout avec le sujet qu'on a sur la table.
Oui, c'est un sujet qui va résonner chez beaucoup de monde. Alors imagine la scène. On est au supermarché, en plein milieu du rayon des céréales.
Ah, le fameux rayon des céréales. Le piège absolu.
C'est ça. Un enfant de 3 ans fixe une boîte en carton. Tu sais, celle avec le tigre orange vif dessus. Et là, d'un coup, il décide que sa survie même dépend de l'acquisition immédiate de cette boîte.
Bien sûr. Et l'adulte dit non.
Voilà. L'adulte qui l'accompagne répond par un non poli mais très ferme. Et ça déclenche l'impensable. La source qu'on analyse aujourd'hui appelle ça une secousse de magnitude 8 sur l'échelle de la parentalité.
C'est joliment dit.
Des cris stridents, tous les clients qui se retournent, des larmes qui coulent à flot, le petit corps qui se raidit complètement. Bref, une scène totalement universelle.
Bah ouais, c'est le point de départ parfait pour notre discussion d'aujourd'hui.
Tout à fait. L'objectif de notre plongée aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ces explosions spectaculaires, c'est pas juste des caprices. C'est de la pure biologie.
Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur un article hyper intéressant publié en février 2026 sur le blog WeFam. Ça s'intitule « Gérer les émotions des tout-petits, 5 secrets essentiels ».
Et la mission de notre exploration, c'est d'extraire de ce texte ces fameux 5 secrets, mais aussi 3 erreurs fatales à éviter pour survivre à ces tempêtes.
Ouais, la promesse pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment de donner des clés concrètes. Que l'on soit parent, grand-parent ou juste passionné par le comportement humain, en fait.
Absolument. Alors, plongeons dans la première partie, la biologie de la tempête. Moi, ce qui m'a vraiment rassuré en lisant ça, c'est d'apprendre que l'enfant n'est pas un petit tyran manipulateur.
C'est le grand soulagement de cet article. Dès le début, le mythe de l'enfant machiavélique est balayé par la science. La réalité, elle se passe directement dans le cerveau.
Ouais, le fameux chantier de construction neurologique.
C'est exactement le terme. D'un côté, on a l'amygdale, c'est le centre des émotions et de la survie. Et chez un tout petit, ce système d'alarme, il est déjà ultra performant. Il détecte la moindre frustration comme une menace existentielle.
Donc en gros, le détecteur du fumier marche super bien, mais il s'active aussi bien pour un vrai feu que pour une tartine coupée dans le mauvais sens.
Mais c'est tout à fait ça. L'amygdale inonde le cerveau de cortisol et d'adrénaline. Le problème, c'est le grand patron.
Le cortex préfrontal.
Voilà. Le cortex préfrontal, qui gère la logique, la patience, le contrôle, il est encore en plein travaux. Ces connexions neuronales vont prendre des décennies à se former.
Des décennies, ouais.
Donc, physiologiquement, ce cortex n'a pas la capacité de dire à l'amygdale de se calmer face à une boîte de céréales refusée.
C'est fou quand on y pense. L'analogie de l'article est forte. L'enfant est submergé par une vague immense. Il n'a ni les mots, ni les outils pour se calmer.
Il est hors de contrôle. Et comprendre cette biologie, c'est la première étape. On passe de l'adversaire capricieux à une personne en détresse qui a besoin d'aide.
Ce qui nous amène directement au premier secret de l'article. Devenir un détective des émotions.
Le secret numéro 1, la validation.
J'ai adoré l'exemple qu'il donne pour les adultes. Ça remet les choses en perspective.
Ah oui, l'histoire du bureau.
Ouais. Imaginons qu'on est furieux contre un chef irrespectueux. On rentre à la maison, on raconte ça, et notre partenaire répond juste « Allez, calme-toi, c'est rien du tout. »
Ça rend encore plus faux.
Mais carrément, ça crée un sentiment d'incompréhension totale. Et l'article explique que c'est exactement pareil quand on dit « arrête ton cinéma » à un enfant.
C'est la pire chose à dire. La règle d'or ici, et c'est une citation clé de la source, c'est « connecter avant de corriger ».
Connecter avant de corriger.
Ouais, mettre des mots sans juger. Par exemple dire « je vois que tu es très en colère parce que tu voulais cesser rien ».
Mais alors il y a un truc important que l'article précise. Valider l'émotion, ça ne veut pas dire céder sur la règle.
Non, surtout pas. Le cadre reste ferme. Mais nommer l'émotion, ça désamorce souvent 50% de la crise.
Parce que le cerveau se sent entendu.
Exactement. Et pour que cette connexion se fasse, il faut de la sécurité. C'est le secret numéro 2. Le cocon de sécurité.
Le fameux coin retour au calme. Alors attention, l'article insiste lourdement là-dessus, c'est surtout pas un coin de punition.
Non, on n'isole pas l'enfant pour le punir de ressentir quelque chose.
C'est un espace sensoriel, il recommande des trucs précis, un tapis moelleux, des peluches, des livres avec peu de texte.
Et la bouteille sensorielle aussi.
Ah oui, avec les paillettes qui descendent lentement, c'est super hypnotique.
Ça aide le cerveau à se recentrer. L'article suggère même un casque anti-bruit pour les enfants hypersensibles.
Mais le point le plus crucial de ce cocon, et c'est peut-être le plus dur, c'est le parent. Le calme est contagieux.
Bah oui, si l'adulte commence à crier, ça revient littéralement à jeter de l'huile sur le feu de l'amidale.
L'adulte doit être l'ancre du navire. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est au milieu du supermarché.
Ah, c'est sûr. Mais une fois que le calme commence à revenir, l'article passe au secret numéro 3. L'art de la redirection intelligente.
Et là, il y a une grosse mise en garde des experts. La distraction classique, c'est un terrain super glissant.
Ouais, si elle est mal utilisée.
Voilà. Le classique, « Oh, regarde le joli papillon alors que l'enfant pleure pour son jouet cassé ». L'article dit que ça donne l'impression que son émotion n'a aucune importance.
C'est invalidant. La méthode proposée se fait en deux temps. D'abord, on valide. Tu es triste que le jeu soit terminé. Ensuite, on fait une pause de 10 secondes.
10 secondes complètes de silence. Ça paraît long dans ces moments-là.
Très long. Mais c'est le temps qu'il faut au cerveau pour accuser réception de l'empathie. Et seulement après ça, on redirige. Du genre, tu te souviens de l'avion en papier d'hier ?
J'ai bien aimé la petite touche d'humour suggérée dans ce passage.
Le comportement absurde.
Ouais. L'article dit que se mettre soudainement à marcher comme un robot ou faire une grimace énorme, ça court-circuite complètement le système limbique. La surprise agit comme un bouton de réinitialisation.
C'est très efficace à court terme. Mais pour le long terme, il faut passer au secret numéro 4. Donner des mots aux mots.
Fournir une vraie boîte à outils à l'enfant. Parce que sinon, la crise reste son outil par défaut.
Exactement. S'il n'a que ça, il l'utilisera. La source donne 3 outils spécifiques à mettre en place.
Le premier, c'est la roue des émotions. Un support visuel avec des petits smileys. Joie, colère, tristesse.
Ça permet de créer des connexions en dehors des moments de crise. Le deuxième outil, c'est la littérature jeunesse.
L'histoire du petit loup en colère, par exemple.
Oui. Observer l'émotion chez un personnage, ça donne une distance de sécurité. Et le troisième outil, très physiologique celui-là, c'est la respiration du ballon.
Ah, la respiration guidée. Inspirer par le nez pour gonfler le ventre et souffler doucement par la bouche.
Sous ces aires de jeu, ça stimule le nerf vague et ça calme le rythme cardiaque. Ça compense l'immaturité du cerveau.
L'article donne d'ailleurs un super conseil logistique. Inclure toutes ces astuces de régulation dans une sorte de fiche urgence.
Pour la nounou, les grands-parents.
Ouais. Comme ça, si quelqu'un d'autre garde l'enfant, il a le mode d'emploi exact. La cohérence, ça accélère vachement l'apprentissage.
Et en parlant de logistique, ça nous mène au cinquième et dernier secret, l'anticipation. Et là, il y a une statistique dans l'article qui m'a scotché.
Les 80%?
Ouais. 80% des crises pourraient être évitées. C'est énorme.
C'est fou. Mais ça s'explique parce que l'article appelle le quatuor infernal. Les 4 déclencheurs physiologiques qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu.
La faim, la fatigue, la soif et la surstimulation.
Le métabolisme des tout-petits est hyper rapide. Face à l'un de ces 4 trucs, leur tolérance à la frustration tombe littéralement à zéro.
D'où l'importance des solutions préventives abordées. Respecter les rythmes. La sieste, c'est sacré.
Et annoncer les transitions.
Ah oui, très important. Prévenir 5 minutes avant. Utiliser le minuteur du téléphone pour que le cerveau se prépare au changement d'activité.
Et pour les sorties, l'article recommande vivement le fameux plan B. Toujours avoir une gourde et un petit biscuit. Ça peut sauver des courses à la Migros ou chez Carrefour.
C'est de la survie logistique à ce niveau-là. Mais bon, même avec la meilleure anticipation du monde, les crises arrivent.
Et quand elles arrivent, il y a des réflexes très ancrés qu'il faut déconstruire. C'est la partie sur les 3 erreurs fatales à éviter.
La première erreur, c'est la punition de l'émotion.
Punir le comportement, genre dire « on ne tape pas, c'est normal et nécessaire », mais punir l'émotion en elle-même, c'est nocif. L'enfant a le droit d'être en colère.
Tout à fait. La deuxième erreur, c'est de prendre la crise personnellement.
Penser qu'il fait exprès de nous provoquer.
C'est ça. On a vu que l'enfant de 2 ou 3 ans, en plein terrible tout, n'a juste pas la capacité cognitive de manipuler. Il est juste submergé. Prêter les intentions manipulatrices, ça ne fait qu'énerver l'adulte.
Et enfin, la troisième erreur, peut-être la plus courante, la négociation en pleine crise.
Ah, l'analogie de l'article sur ce point est brillante.
La noyade.
Oui. Essayer de raisonner un enfant en pleine tempête émotionnelle, l'article dit que c'est comme essayer d'expliquer le code de la route à quelqu'un en train de se noyer.
C'est tellement parlant. On ne fait pas un cours magistral à quelqu'un qui se noie, on le sort de l'eau. Le cerveau logique est juste déconnecté.
Il faut attendre que la tempête passe.
Mais du coup, une question qui revient souvent et que l'article aborde très bien, c'est comment différencier un vrai caprice d'une tempête émotionnelle?
La frontière est parfois floue de l'extérieur. Mais la différence, c'est la conscience et le contrôle.
Un caprice est conscient. Il s'arrête net si l'enfant obtient ce qu'il veut.
Exactement. Alors qu'une tempête, c'est une perte de contrôle. L'enfant continuera à pleurer et à hurler même s'il obtient la fameuse boîte de céréales parce qu'il ne sait juste plus comment s'arrêter. Son système nerveux est emballé.
Et l'article donne des conseils pour gérer ça en public.
Oui. S'isoler avec l'enfant, valider à voix basse.
Et surtout, ignorer totalement le jugement des autres personnes autour.
C'est indispensable. Mais on va pas se mentir, faire abstraction du regard des autres et gérer l'émotion de l'enfant, ça demande une énergie folle.
Une énergie colossale. Ce qui nous amène à la question de la charge mentale, qui est super bien traitée dans cette source.
Oui, le blog WeFam insiste beaucoup là-dessus. La gestion émotionnelle dresse le bilan d'une énergie cognitive énorme.
Et c'est là qu'on comprend mieux la proposition de valeur globale de WeFam. Ils proposent leur application gratuite pour gérer l'agenda ou les repas et des ressources premium comme leur kit urgence famille ou le guide garde partagé.
L'idée, c'est d'utiliser ces outils logistiques comme un cerveau déporté.
J'aime beaucoup cette expression. Un cerveau déporté. L'article explique que moins l'adulte gère la logistique au quotidien, plus il garde de la bande passante et de l'énergie pour l'intelligence émotionnelle.
Pour avoir la patience de traverser la crise et faire les câlins après la tempête.
Ouais, parce que parfois la charge est tellement lourde qu'on a juste envie de s'enfermer dans une pièce avec du chocolat suisse et de ne plus parler à personne.
C'est une stratégie de survie tout à fait valide.
Complètement. Pour synthétiser un peu toute cette analyse, l'article rappelle que la parentalité, c'est vraiment un marathon, pas un sprint.
Ouais.
Chaque crise est en fait une opportunité de construire les connexions neuronales de l'enfant. Il y aura des jours avec une super patience et des jours sans. Le but affiché par ces experts, c'est le progrès, c'est pas la perfection.
C'est très déculpabilisant.
Totalement. D'ailleurs, pour conclure notre exploration, il y a une pensée provocatrice qui m'est venue en lisant tout ça et je voulais te la partager.
Vas-y, je t'écoute.
On a passé toute notre discussion à voir que les crises des tout-petits sont souvent causées par le fameux catchoir inférieur, la faim, la fatigue, la soif, la surstimulation, combinées à un cerveau immature.
Tout à fait.
Mais quand on y réfléchit honnêtement, si on observe nos propres réactions d'adultes au quotidien...
Je vois où tu veux en venir.
Combien de nos propres disputes personnelles ou de nos conflits hyper tendus au travail ne sont en réalité qu'une incapacité temporaire à gérer nos émotions ? Juste parce qu'on a faim, qu'on a soif, qu'on est épuisé ou qu'on est surstimulé par les écrans.
C'est terrifiant de vérité. Le nombre de fois où on s'énerve pour un mail juste parce qu'on a sauté le repas du midi.
C'est exactement ça. C'est peut-être une belle invitation à examiner nos propres tempêtes d'adultes avec un peu plus de bienveillance. Et à se rappeler que parfois, un verre d'eau et une sieste, ça résout bien des drames.
C'est une excellente conclusion. S'appliquer ces 5 secrets à nous-mêmes.
Voilà. Sur cette réflexion, on espère que cette analyse vous aura donné des clés utiles. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.
Merci, c'était un plaisir.
À bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.